Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette occasion, ce matin, de pouvoir partager sa parole et d'être là aussi pour l'écouter. Je vous propose donc la lecture en Genèse chapitre 22. Nous commençons la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Genèse chapitre 22, 1 à 14, je vais conduire la lecture au nom de Jésus-Christ. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, mais voici, il reprit, prends ton fils, ton unique Isaac que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les biches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ces lieux. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le biche pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père. « Mon père, » dit-il. Et Abraham répondit, « Mais voici, mon fils. » Il reprit, « Voici les feux et les biches. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Mais voici. » Il reprit, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien. » Car maintenant je sais que tu crains Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Abraham leva les yeux, il regarda et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans le fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Et Abraham nomma ces lieux le Seigneur voit. Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur ait vu, parole du Seigneur. Amen. Il nous a été proposé ce matin de parler de la fidélité à Dieu dans les épreuves les plus dures. Et le texte que nous venons de lire est sûrement familier à beaucoup d'entre nous parce que c'est un texte que nous lisons plusieurs fois lorsque nous voulons parler de la foi, de l'offrande, et bien d'autres thèmes que nous pouvons soutirer de ces textes. Cependant, aujourd'hui, nous voulons, comme je venais de le dire, parler de la foi en Dieu, la fidélité à Dieu dans les dures épreuves. Nous savons que dès le moment où nous acceptons de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous faisons quotidiennement face à des épreuves qui demandent que nous puissions prouver réellement notre foi en Dieu. Ces récits d'Abraham que nous venons de lire en Genèse est une histoire qui commence avec le chapitre 12, lorsque Dieu fait appel à Abraham. Ici, il faut noter une chose, c'est la manière dont Dieu appelle Abraham. Il lui demande de tout quitter. de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter même sa famille. Mais il ne demande pas à Abraham de quitter pour rien. Il lui fait des promesses. Nous pourrons résumer ces grandes promesses en trois promesses principalement. Dieu promet à Abraham d'abord une patrie. Et notez qu'il vient de lui demander de quitter sa patrie. Et en même temps, il lui promet quoi? Une patrie. Il lui promet également de faire de lui une grande nation. Il faut noter que jusqu'à cet âge, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et il reçoit la promesse de devenir une grande nation. Et troisièmement, Dieu le promet de le bénir. Et lorsque vous continuez la lecture dans la Genèse vers les chapitres 15 et 17, c'est là que vous allez trouver ces promesses qui vont être appelées l'alliance même que Dieu va former avec Abraham. Lorsque Dieu promet à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un fils, ils sont déjà dans la vieillesse. Et dans leur culture, c'était comme une grande honte de ne pas avoir d'enfant. Et notez aussi que lorsque Sarah va recevoir cette promesse, elle ne va pas s'imaginer que c'est quelque chose qui puisse se produire. Mais au-delà des inquiétudes, au-delà de tout ce que Abraham aussi pouvait ressentir, Dieu a tenu sa promesse et les deux ont eu un fils. C'est donc à partir de ça, après tous ces événements, que vient cette épreuve auquel Dieu va encore soumettre Abraham. Il lui demande ici de lui offrir son unique fils en holocauste. Nous pouvons nous imaginer, en tant que parents, pour ceux qui le sont, le fils unique que vous avez, qu'on vous demande de l'offrir encore, de vous en débarrasser. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout ce que pouvait ressentir Abraham comme émotion, comme attachement paternel à son fils, il est quand même allé jusqu'au bout de tout ce que Dieu lui avait demandé. Je me suis proposé que nous puissions retenir quatre vérités de la lecture de ce texte et nous aurons peut-être fini notre méditation. La première vérité que nous pouvons apprendre de ce texte, c'est que Dieu n'attend pas de nous ce qui ne nous coûte rien. Amen. Dieu n'attend pas de nous ce qui ne nous coûte rien. Voyez au verset 2, lorsqu'il demande à Abraham, il note des éléments très importants. « Prends ton fils. » Il ne s'arrête pas là. Il dit « ton unique, celui que tu aimes. » Et puis, il finit par dire « Isaac. » C'est là où l'obéissance à Dieu est vraiment prouvée. Sur des choses ou des personnes qui sont très chères à nous. Lorsque nous lisons la vie d'Abraham, elle nous montre que ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur simple, c'est ceux-là qui sont bénis. Et quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa patrie, Abraham l'a fait. Et maintenant, quand il lui demande aussi de lui offrir son fils en holocauste, Abraham était encore prêt pour le faire. Parce que déjà au début de cette lecture, il s'est levé de bon matin pour aller faire ce sacrifice. Lorsque nous lisons ce passage, nulle part on nous montre que Abraham avait hésité. Abraham n'a pas hésité. Il s'est levé et il est parti. C'est-à-dire ici que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas pour nous une option quand Dieu nous demande de faire quelque chose. C'est une obligation. Notre fidélité à Dieu est aussi prouvée par notre obéissance à sa parole. Combien de fois nous sommes prêts à donner selon que Dieu nous le demande de faire? Parfois, on va jusqu'à se demander, est-ce que réellement les gens avec qui nous sommes ils ont réellement rencontré le Seigneur? Est-ce qu'ils ont été transformés? Parce que si pour de petites choses, pour des faits moindres, il faut qu'on fasse beaucoup de communiqués, beaucoup d'écrits pour que les gens bougent, ne trouvez-vous pas que notre foi ou notre salut même serait remis en cause? Est-ce que réellement les dieux en qui nous disons avoir cru, nous les connaissons? Voyez-vous, seulement à écouter l'appel des dieux, il s'élève. Je m'imagine toutes les questions qu'il pouvait bien se poser. Et lorsque vous lisez, ce n'est pas qu'il est parti d'un trajet moins court. Il a fait 3 jours pour arriver jusque là où le Seigneur l'avait indiqué d'aller. Et pendant ces 3 jours, c'était un moment suffisant pour qu'il se pose ou qu'il se remette même en question. Qu'il se dise, peut-être que je peux offrir autre chose, proposer au Seigneur autre chose que tout ça qu'il me demande. Mais lui, il est allé. Combien de fois nous attendons seulement qu'on nous amène des prédicateurs de l'extérieur pour que nous puissions nous donner pour quelque chose? Parfois nous proposons nous-mêmes des grands séminaires. Non, il faut qu'on anime un séminaire pour que nous puissions construire. Est-ce que nous avons besoin qu'on nous dise, qu'on nous rappelle? En principe, il y a des choses qui devraient venir de soi. C'est nous qui devrions déranger même nos pasteurs ici et dire, est-ce que nous avons encore des choses à finaliser par rapport à notre budget, par rapport à telle activité? Mais nous attendons toujours. Et parfois, quand un communiqué passe, on vient et on voit voir le pasteur dire, non, non, vous ne l'avez pas bien dit, mais vous avez compris, vous savez ce qu'il faut faire. Pourquoi vous voulez qu'on y revienne toujours? Est-ce que Yesu Alisha Kaingia vraiment? Je pense à ce cantique en Swahili qui dit Moyo uligeuzwa na vile nini? Maisha. Wakati gani? Alors est-ce que Yesu Alisha Kaingia? Je vous donne un secret. C'est en Malachi chapitre 3, verset 10. Il est dit ceci: apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Et vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai des bienfaits. Amen. Je crois que c'est peut-être bien le seul endroit où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Et comment le faire? En remplissant son temple, de sorte qu'il ne manque rien. Voilà donc comment Dieu veut que nous puissions le mettre à l'épreuve, en apportant réellement tout ce que nous devons, pas ce que nous pouvons, mais ce que nous devons. Alors à chacun de se demander, qu'est-ce que je dois? En considérant toutes les bénédictions avec lesquelles le Seigneur m'a béni, qu'est-ce que je dois au Seigneur? Amen. Deuxième vérité que nous pouvons apprendre de ces textes, c'est que l'expérience avec Dieu est tout d'abord personnelle. Amen. Lorsque nous lisons le verset 5, nous trouvons Abraham en train de demander aux deux jeunes qui l'accompagnaient de demeurer ici. Il leur dit, demeurez ici et nous reviendrons après vers vous. Comprenez donc que pour réaliser certains actes de foi avec Dieu, nous avons besoin de marcher seulement avec lui. Si nous nous faisons accompagner d'autres personnes ou si nous associons d'autres personnes, ils peuvent risquer de nous empêcher à réaliser ce que le Seigneur nous met à cœur. Pensez-vous que les deux jeunes pouvaient résister à voir Abraham tenir un couteau et vouloir égorger lui-même son propre fils? Et puis il y a quelque chose qu'il faut noter ici. Comment Abraham dit aux jeunes, attendez-nous ici et nous reviendrons, en même temps qu'il fait allusion à lui et à Isaac. C'est-à-dire que Abraham savait bien les dieux en qui il avait cru. Il savait que si même il allait jusqu'à sacrifier son fils, le Seigneur était capable de le lui rendre. Amen. Et donc, il dit au jeune, nous allons revenir. Pendant que dans son cœur, il sait que c'est le jeune Isaac qui est demandé à être offert en sacrifice. C'est dans cette certitude de foi que nous voyons Abraham être prêt à sacrifier son fils. Parce que la parole de Dieu, elle est plus certaine pour lui que le fait même de la mort. Et nous pouvons lire ça aux épîtres d'Hébreux, chapitre 11, verset 19, qui dit « Abraham, il estimait que Dieu est puissant jusqu'à ressusciter des morts. C'est pourquoi aussi il recouvrirait Isaac par une sorte de résurrection. » L'expérience avec Dieu, c'est la meilleure des façons d'aller en profondeur dans la foi et surtout de laisser Dieu se révéler à nous chaque jour davantage. Si nous ne sommes pas prêts à aller dans cette profondeur d'intimité, nous n'allons pas découvrir ce que Dieu est capable de faire avec nous. Nous allons rester limités. Et donc, tant que tu sais que Dieu est là et il voit, il sait tout, il agrée même ce que tu fais, cela te suffit. Tu n'as donc pas besoin de monde autour de toi. Tu n'as donc pas besoin de gens qui voient ou qui reconnaissent ce que tu es en train de faire. Matthieu 6, 3, 4 nous apprend ceci. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait, afin que ton aumône s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret, c'est lui qui te le rendra. Amen. La notion du secret dans la vie du croyant. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent être vus. Ils veulent qu'on leur loue pour ce qu'ils voient, pour ce qu'ils font. Un chrétien, vous pouvez voir un chrétien qui offre des chaises à l'église et qui voudrait qu'on note son nom sur ces chaises. Hein? Don de monsieur tel, fidèle de Gomaville, pour sa foi et son attachement à Dieu. C'est ça, les chrétiens aujourd'hui, malheureusement. Marchons avec Dieu seul si nous voulons accomplir des grands actes de foi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler un jour, il y avait dans une église une campagne de construction. En fait, on mobilisait les fidèles pour construire. Et alors, comme on le fait d'habitude, les gens ont souscrit. Un fidèle a souscrit pour amener le sable qui devrait construire pour tout le temple. Alors, le problème ici, c'est que lui a choisi le dimanche. Le dimanche, aux heures de la fin du culte, pour amener le sable. Et donc, il est venu vers la fin du culte avec autant de camions. Il s'est arrangé pour que tout le monde voit comment il est en train de superviser les travaux. Et tout le monde a compris que c'est elle qui a donné le sable. Nous voulons être vus. Et Dieu n'opère pas avec les gens qui ne savent pas aller dans l'intimité avec lui. Troisième vérité, c'est Dieu qui voit et qui pourvoit lorsque nous le suivons en nous donnant tout à lui. Amen. Tout à lui, c'est-à-dire tout notre être. Tout notre être implique tout ce que nous sommes. Notre intelligence, notre force, notre pensée, tout nous. Hein? Nous nous donnons à Dieu dans l'ensemble. La marche avec Dieu demande que nous puissions avoir un minimum de foi pour que nous puissions arriver à nous donner comme ça. Le minimum de foi. Et cela signifie que lorsque nous nous donnons tout nous, notre amour pour toutes ces choses que Dieu nous donne, notre attachement pour tout ce que Dieu nous a donné, ne va pas être plus grand que notre foi à croire en ce Dieu qui peut encore nous donner plus que ce que nous avons. Amen. Notre attachement, notre amour pour toutes ces choses que Dieu nous donne ne doit pas être plus grand que notre foi. C'est-à-dire le fait pour nous de croire que Dieu qui nous a donné ces choses, il est encore capable de nous donner plus que ça. Amen. La foi d'Abraham a été prouvée avec son fils Isaac. Quand Dieu lui demande de lui offrir ce fils unique qu'il avait. Et nous ne pouvons pas savoir ici quelles avaient été exactement les émotions d'Abraham en entendant un commandement pareil. Mais ce que nous savons et ce que la Bible atteste, c'est que Abraham avait obéi à cette parole. Abraham avait attendu d'avoir un fils depuis bien longtemps. Dieu lui a promis qu'il aurait un fils. Il n'a pas attendu une année, il n'a pas attendu 2 ans. Il a attendu des années. Et finalement, quand il a ce fils, le fils de sa vieillesse, c'est celui-là encore que le Seigneur lui demande de lui offrir. C'est inimaginable ce que Abraham pouvait ressentir. Mais ce que nous savons et ce que la Bible atteste, c'est qu'il avait obéi. Comme quand Dieu lui avait encore demandé de quitter sa patrie, il avait obéi. Et à la fin de ces récits, nous trouvons que Abraham était prêt à offrir, à sacrifier son fils, mais Dieu lui a empêché de faire ça. Le plus important ici, c'est que la foi d'Abraham en Dieu était plus grande que son amour pour son fils. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, que toutes les choses qui peuvent nous amener à penser que c'est tout ce que nous avons, ne puisse pas nous aveugler à oublier notre foi, notre attachement à Dieu. À quoi est-ce que tu peux t'attacher au-delà de ta foi en Dieu? Est-ce que ce sont tes affaires ou ton emploi, ton mari ou ta famille? Penses-tu vraiment que ta famille ou ton emploi ou tes affaires ou quoi que ce soit d'autre mérite d'être une raison pour toi de ne pas rester fidèle en Dieu? Penses-tu que toutes ces choses que Dieu t'a données pourraient vraiment mériter d'être une raison pour toi de ne pas avoir la foi en Dieu qui est capable de te donner tout ce qu'il a donné et voire plus? Je le dis encore ici, notre amour ou attachement à quoi que ce soit que Dieu nous a donné ne doit jamais être plus grand que notre foi en Dieu. La dernière vérité ici pour terminer, c'est que nos actes de foi témoignent réellement jusqu'à quel niveau nous sommes engagés à l'œuvre de notre Dieu. Nos actes de foi témoignent réellement jusqu'à quel niveau nous sommes engagés dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Au verset 12, nous voyons une confession. L'ange qui dit, « Maintenant je sais que tu crains le Seigneur. Je sais que tu crains Dieu à cause d'un acte de foi. » Je me rappelle un jour à Goma Ouest, alors que l'église n'avait pas encore de parcelle, il y a quelques années, on priait à dans une des salles au centre Rudolf. Alors un dimanche, c'était le dimanche qui clôturait la semaine des mamans. Les mamans sont venues et ils ont offert au Seigneur du sable, un camion Ben. Ils ont dit, nous offrons au Seigneur ce camion Ben pour la construction du temple. Il n'y a pas de parcelle, on offre du sable pour la construction du temple. À ce temps-là, si vous pouviez demander même aux fidèles, certains vous diraient, bon, il n'y a d'autres tous à ma maman. On ne sait pas à quoi elle pense. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à Goma Ouest, l'adresse n'est plus au centre Rudolf. Mais ils ont maintenant un beau temple. Amen. Ils ont posé un acte de foi que nombreuses personnes ne pourraient comprendre. Et ce qui est un peu plus drôle dans la foi, c'est que lorsque vous faites un acte de foi, ne vous attendez pas à ce que tout le monde comprenne. Parce que pour la plupart des gens, c'est de la folie. Mais il faut le faire. Nous l'avons peut-être aussi sûrement fait et vécu ici à travers différentes activités, des constructions. Mais le Seigneur nous a fait grâce, il a réalisé ses promesses et nous l'avons vu. Un acte de foi peut réellement témoigner à quel niveau nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous vous lancez dans un défi avec Dieu, où vous dites, Seigneur, je vais te construire un bon temple. Et quand les gens vous écoutent parler, ils vous regardent, ils disent, mais vous n'avez même pas de maison, vous n'avez pas de parcelles. Et vous voulez construire au Seigneur un bon temple. Si vous y allez avec Dieu et que réellement le Seigneur vous l'a mis à cœur, je peux vous assurer que lui, il est capable de le faire avec vous. La foi, la fidélité et l'obéissance dans notre engagement dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend de nous. En tant que disciples, en tant que chrétiens de Gomaville, en tant que membres du corps universel, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que le monde attend de nous. Et nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. Si Dieu a promis de faire quelque chose avec vous, nous avons l'obligation de marcher avec lui, de rester fidèles et surtout d'être patients pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a promis de faire à son temps. Amen. En lisant le récit d'Abraham, il est vrai que c'est une personne exemplaire, mais non pas parce qu'il était super saint. Il avait aussi des faiblesses, tout comme nous aussi. Mais il est demeuré un modèle à cause de sa foi en Dieu, à cause de toute la confiance qu'il a placée en Dieu comme le Tout-Puissant capable de faire au-delà de ce que lui peut imaginer. Aujourd'hui, Abraham est pour nous un exemple vivant de foi. Et nous devons, tout comme lui, vivre de manière à laisser un héritage durable à toutes ces personnes qui vont venir après nous. Et cet héritage, c'est notre foi. Amen. Il n'y a pas plus au-delà que ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ayons la foi en lui. Si nous croyons en Dieu et que nous avons la foi en lui, nous saurons être fidèles et obéissants à ce que lui nous demande de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.